sert dans société dont je suis tout vite fait partie, organise des célébrations et des rituels célébrant la liberté. J'estime que ce cas-là a été un rituel satanique. Ils viennent voir les gens individuellement. Vous allez vous agenouiller devant la Révolution française. Sinon, il va vous arriver des choses à les célébrer le féminisme et l'immigrationnisme. Sinon, il va vous arriver des choses, on va vous punir. Je me lève ce matin. Puis, j'ai l'impression d'être tué.
Mesdames et messieurs, il est ici, en chair et en gras. Bienvenue à Dedans le Nid, avec votre hôte, Stupid.
Salut tout le monde, ici Stupid et bienvenue à cette émission en direct du mardi 29 août 2017. Et la question d'aujourd'hui que je pose, est-ce que les Québécois se radicalisent? Parce qu'en entendre parler les politiciens et les médias de masse, oui, les Québécois se radicalisent, des groupes d'extrême droite émergent, et puis ces groupes d'extrême droite sont extrêmement dangereux, puis il faut faire attention, etc. C'est ce qu'on entend. Et pour voir si la population se radicalise, ben ce qu'on a à faire, c'est de se remettre dans l'ambiance d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Et c'est sûr qu'à l'âge où je suis présentement, ben j'ai vécu, moi, dans les années 70. J'ai vécu dans les années 80, 90, 2000 et maintenant les années 2010. Et pour voir si la société s'est radicalisée, donc, est-ce qu'elle est devenue plus sexiste? Les féministes semblent dire que oui. Est-ce qu'elle est moins égalitaire? Les justiciers sociaux semblent dire que oui. Est-ce que la société d'aujourd'hui, elle est plus raciste? La plupart des justiciers sociaux vont vous dire que oui. Les gouvernements vont vous dire que oui, etc., etc. Donc, comment c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans? Est-ce que, par exemple, quand on écoute les humoristes des années 60, 70, les jokes qu'ils faisaient, exemple, des jokes racistes, mais qui étaient vraiment pas drôles, là. C'était, tu voyais vraiment, tu sais, à ce moment-là, au Québec, il y avait très, très peu de minorités visibles. Et des fois, les jokes étaient vraiment pas cool. Les jokes sur les femmes, tu sais, si on remonte dans le temps de Claude Blanchard puis Roméo Pérusse, c'était très dénigrant. Les femmes riaient, trouvaient ça drôle. Ou ça faisait « oh, mais... hein? » si on va au sud, par exemple, aux États-Unis, est-ce que les gens étaient plus racistes dans les années 60 que maintenant? Si on regarde le classement du Canada au niveau du racisme sur la planète, parce qu'il y a plusieurs études qui existent de plusieurs organisations et qui vont classer les pays selon les plus racistes, les moins racistes. Le Canada et les États-Unis se classent bon an, mal an dans les premières et deuxièmes positions pour les pays les moins racistes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi au Canada qui, par exemple, va opprimer une minorité ou un groupe de citoyens. Il n'y a pas de loi qui discrimine les femmes ou les hommes ou les noirs ou les musulmans ou peu importe. Il n'y a pas ça ici. Ceux qui, par exemple, ont des comportements haineux ou racistes sont punis sévèrement dans nos sociétés. Donc, si on regarde, le Québec, en moyenne, est beaucoup moins raciste maintenant qu'il y a 30-40 ans. Et même il y a 30-40 ans, on s'entend, c'était pas ben du racisme non plus. C'était plus, je dirais, une certaine xénophobie parce qu'il y avait tellement peu de minorités visibles que quand t'en voyais un, tu sais, quelqu'un qui te ressemble pas, ben t'as une réaction, c'est qui ça, c'est qu'est-ce qu'il veut, etc. Et généralement, le racisme tombe lorsqu'on parle à ces gens-là et on se rend compte, par exemple, que sont comme nous autres. Moi, c'est mon père qui m'a appris à ne pas être raciste. Je me rappelle, mon père a 82 ans. Et quand j'étais ticu, évidemment, dans mon coin, c'était surtout les Anglais contre les Français. Là, les Anglais nous sacraient des volées puis tout ça. Puis mon père avait un commerce, puis il s'est fait voler deux fois par deux Noirs avec des guns puis toute la kit. Puis j'avais fait un commentaire raciste un moment donné contre les Noirs. Puis mon père, malgré avoir vécu deux hold-up, m'a repris. C'est très rare que mon père faisait ce genre d'intervention-là. Très rare. Tu sais, qu'il faisait une intervention basée sur la morale, là. Tu sais, ça se parlait pas dans nos familles dans ce temps-là. Mais mon père, il a comme pogné les nerfs. Ben, pogné les nerfs. Relatif, là. C'est parce que c'est pas une personne qui pogne les nerfs, là. Mais il m'a dit, « Hey, André, c'est pas correct ce que tu viens de dire, là. Tu sauras que les Noirs, là, sont exactement comme nous autres. Ils sont pas différents, sont pas meilleurs, sont pas pires. C'est du monde comme nous autres. » Ah! OK. Parce que dans le cours d'école, puis les jokes d'humoristes, les Noirs, c'était pas du monde comme nous autres. C'était à l'époque où, mettons, Yvon Deschamps a pris la peine d'écrire un monologue qui s'appelle Nigger Black, justement pour parodier le fait que les Noirs sont comme nous autres. Et j'ai grandi avec une intolérance pour le racisme, vraiment. Encore récemment, mon père, il y a un voisin qui vient de déménager à côté de chez eux. C'est des musulmans, c'est une famille de musulmans. Puis mon père, il est allé cueillir des tomates, puis il est allé lui donner « Hey, bienvenue dans le voisinage ». Tu sais, ça se fait plus aujourd'hui, ça. Mon père l'a fait. Et mon père, il est comme fasciné même par la différence. Tu sais, je me rappelle, pendant une campagne électorale, Makakoto cogne chez eux. Mon père ouvre la porte. Tu sais, c'est une montagne, Makakoto, là. C'est toute une pièce d'or. Puis, comme... oh! Puis là, mon père me racontait ça. Là. Hey, écoute, il est resté chez nous deux minutes. Puis il s'exprime bien. Puis il est grand et costaud. Quel homme, tu sais. C'est sûr, je vote pour lui. Il m'a jamais dit, c'est un noir. Parce que, justement, tout le côté racisme, à un moment donné, ça a été comme mis en dessous de la couverte quand on s'est... Quand on s'est dit collectivement comme société que la couleur, l'origine ethnique puis tout ça, c'était pas un facteur. Pis socialement, on s'est mis d'accord là-dessus. C'est sûr qu'il va tout le temps avoir des racistes. Ça, tu peux pas rien faire. La nature humaine est comme ça. Il va tout le temps en avoir. Mais socialement, les Québécois sont pas racistes. C'est à Montréal qu'il y a eu le premier joueur de baseball professionnel noir, Jackie Robinson. Et il y avait une quote que j'avais lue un moment donné d'un journaliste américain qui disait sa première fois, parce que lui c'est un journaliste américain, sa première fois que je vois des blancs courir après un noir, c'est parce qu'il l'aime. Il était une immense vedette, Jackie Robinson, à Montréal. Fait que même dans une époque où c'était très raciste aux États-Unis, puis il y avait de la ségrégation, même ici, au Québec, on était ouvert. Lorsque les Français sont arrivés, par exemple, en Auvergne, ils n'ont pas fait la guerre aux Amérindiens. Ils ont fait du commerce avec eux autres, puis ils se sont liés d'amitié, puis il y a eu des métisses et un métissage, ils se sont mariés entre eux autres, puis tout ça. Donc, j'ai déjà assisté à des actes racistes. J'ai déjà vu des gens avoir des paroles racistes puis faire des gestes racistes. C'est comme frapper un petit Asiatique parce qu'il est Asiatique. Là, Chin-tok, gna-gna-gna, j'ai vu ça. Mais on peut pas dire que dans notre société, le racisme soit institutionnalisé. Et encore moins systématisé. Fait qu'on n'est pas plus raciste, on est probablement moins raciste avec le temps. T'sais, on voit de plus en plus de minorités à la télé. Ma fille regarde le canal qui s'appelle VRAC pour les ados, puis tu vois, il y a vraiment un effort pour mettre de plus en plus de minorités visibles là-dedans. Puis, tu sais, quand je regarde, mettons, Like Moi, puis je vois Adib Al-Khalidi, dans ma tête, je vois pas genre, ah, check, ils ont mis un arabe pour faire le quota. Je vois un gars qui est super drôle, puis on est colorblind. La couleur, c'est pas important. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Au niveau du sexisme, il y a eu des batailles qui ont été gagnées au niveau de l'équité salariale. Puis il y a énormément d'efforts pour faire comme dans les pays scandinaves, c'est-à-dire de d'enlever tout obstacle pour pas que les femmes aient pas accès, par exemple, à l'éducation supérieure ou à se partir des business ou à faire le travail qu'ils veulent. C'est sûr qu'il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Là, tu vas tout le temps avoir plus d'hommes pompiers parce que ça prend une carrure pour... T'sais, c'est une job qui est très physique. C'est normal qu'il y ait plus d'hommes policiers, etc. Puis ensuite, c'est la nature qui fait le reste. S'il y a plus de femmes infirmières, exemple, il y a 20 femmes pour un homme infirmière, si c'est le cas, ben c'est pas parce qu'on est dans un patriarcat. Puis s'il y a 20 hommes ingénieurs pour une femme, c'est pas parce qu'on est dans un patriarcat. C'est parce que plus un pays est libre, plus les gens vont avoir tendance à aller dans un métier qui est historiquement lié à leur genre. Si on regarde maintenant, justement, parlant de genre, il y a 10 ans, si on posait la question aux Québécois, il y a combien de genres? Puis s'ils ne comprennent pas la question, parce que c'est normal, parce que c'est une question extrêmement stupide, tu y expliques, pour être sûr, tu sais, que ce n'est pas une question truquée, là, 100% des gens qui n'ont pas de maladie mentale vont dire, ben, il y en a deux. OK, nomme-moi les deux genres, ben, masculin, féminin. Il y a des gens qui vont dire mâle, femelle, homme, femme, petit gars, petite fille. T'sais. Il y a deux genres. Puis la personne qui répondait « il y a deux genres », ben sa réponse était pas liée à une allégeance politique. Tu n'étais pas à gauche ou à droite parce que tu disais qu'il y a deux genres. Si je pose la question aux gens sur la rue que font 10 plus 10, puis les gens disent 20, ben, ils disent pas 20 parce qu'ils sont à droite, ils disent pas 20 parce qu'ils sont à gauche, ils disent 20 parce que la réponse, c'est 20. Donc, si je pose la question, il y a combien de genres? Il y a 10 ans, il y en a deux, puis c'est pas controversé. 10 ans plus tard, nos gouvernements sont en train de rentrer dans la loi une théorie du genre qui a aucune base dans la réalité. Avec la loi C-16, qui est un délire total, c'est une loi qui fait en sorte que si, par exemple, tu n'utilises pas un pronom inventé pour faire référence à une personne qui a exigé que tu l'appelles par ce pronom inventé-là, tu peux être accusé de discours haineux. Bon, peut-être que c'est pas tout le monde présentement... qui m'écoutent, qui sont au courant un peu c'est quoi la théorie du genre, là, mais grosso modo, la théorie du genre, c'est pas parce que tes chromosomes, c'est XX que t'es une fille. C'est pas parce que tes chromosomes, c'est XY que t'es nécessairement un gars. C'est pas parce que t'as un pénis que t'es un gars. Tout est dans la tête. Et ça s'appelle la théorie du genre. Ça devrait pas s'appeler la théorie du genre. Ça devrait s'appeler soit le délire du genre ou l'hypothèse du genre, mais c'est loin d'être une théorie parce que tu ne peux pas faire aucune prédiction avec cette théorie-là. La vaste majorité des Québécois aujourd'hui, si tu les arrêtes dans la rue et tu demandes il y a combien de genres, 95, 99, 100% vont dire il y en a deux, hommes et femmes. Sauf qu'aujourd'hui, dire ça, c'est controversé. C'est rendu un discours haineux aujourd'hui. Donc, on remarque que les institutions, OK, la norme, ça, c'est quand les gens sont d'accord avec un certain concept. T'sais, c'est la norme en Amérique du Nord que les gens veulent être libres. Ils veulent être libres de prendre des décisions qu'ils veulent. Ils veulent être libres, par exemple, je veux être libre, moi, je veux être un dentiste. Ben, tout est là pour que tu puisses devenir un dentiste si tu as les habiletés pour le devenir. Moi, je veux travailler dans le public. Moi, je veux travailler dans une usine. Moi, je veux pas travailler. Tout est là pour que tu puisses atteindre tes objectifs si tu as les habiletés pour atteindre tes objectifs. Je pense que tout le monde s'entend sur la liberté, c'est vraiment important. C'est un consensus social. C'est un consensus social que il y a deux genres. Il y a des hommes, il y a des femmes. Puis si jamais, il y a quelqu'un qui naît, une hermaphrodite ou peu importe, quelqu'un qui naît avec un pénis et un vagin, on s'entend que c'est une anomalie biologique. T'sais, c'est pas plus grave que ça, mais je ne vais pas baser une théorie sur l'ultime exception. Et la théorie du genre, ce qu'elle fait, en fait, l'hypothèse du genre, le délire du genre, c'est que je prends des exceptions, c'est-à-dire des gens qui sont persuadés qu'ils sont pas le genre avec lequel ils sont nés. Ils sont persuadés que, par exemple, le gars, il est persuadé qu'il est une fille, les transgenres. Bien, on base la théorie du genre sur l'ultime exception et on voit les dérapages où, par exemple, Facebook accepte plus de 70 genres maintenant. Et c'est ça qui est rendu la norme maintenant. Si on regarde les justiciers sociaux, et là-dedans, tu vas inclure les féministes radicales, parce que le féminisme n'existe plus, maintenant c'est le féministe radical. Tu as, par exemple, les apologistes de l'islam, tu as les antifa là-dedans, etc. Eux, leur philosophie, c'est l'intersectionnalité. Ce qui veut dire que pour être féministe aujourd'hui, il faut également que tu sois une communiste. Et il faut également que tu défendes l'islam. Si on recule il y a 10 ans ou il y a 20 ans, prends Jeannette Bertrand, mettons, dans les années 80, puis tu y parles, tu dis, écoutez, Mme Bertrand, au Moyen-Orient, il y a 10 ou 11 pays que si tu es homosexuel, t'es mis à mort. Puis l'homosexualité est interdite dans pas mal tous les pays où il y a une théocratie. Dans les pays théocratiques islamiques, la femme n'a pas le droit de conduire un véhicule, doit se voiler, peut pas étudier, etc. Vous pensez quoi de ça? Elle va dire, ben écoute, c'est une philosophie abominable, c'est épouvantable, les féministes, faut qu'on se lève debout, faut qu'on milite, puis qu'on ait libéré ces femmes-là. Et ça aurait été un discours tout à fait rationnel et les médias auraient tous été d'accord avec ce discours-là. Les politiciens auraient tous été d'accord avec ce discours-là. Il y a un film « J'aimais sans ma fille » où Sally Field, je pense qu'elle est allée en Iran avec son mari, finalement, elle s'est fait pogner là-bas. Puis elle, bon, l'histoire, c'est qu'elle veut s'en retourner aux États-Unis avec sa fille parce que là-bas, elle n'a aucun droit. Et aujourd'hui, tu prends les féministes d'aujourd'hui, ils vont défendre l'islam politique. T'as Linda Sarsour aux États-Unis qui est, en guillemets, une féministe. En fait, c'est un cheval de Troie incroyable. Voilée et qui dit que se voiler, c'est la liberté. Et elle, c'est une icône du féminisme et de la gauche aux États-Unis. La gauche qui, dans le temps, militait pour la liberté, maintenant milite pour l'oppression. Les Antifa, un groupe anti-fasciste. Fait que là, tu te dis, bon, ben, ces gens-là vont militer contre les fascistes. Il n'y en a pas vraiment au Québec des fascistes, mais tu te dis, ben, s'il y a une ligue anti-fasciste, ben, si un moment donné, il y a du fascisme, ben, je suis content qu'il soit là. Et tu te rends compte que le groupe antifasciste est un groupe terroriste, domestique, fasciste, qui impose ses idées et qui veut rentrer dans le fond de la gorge leur agenda aux Québécois par la force. Et ce qu'ils veulent, c'est le communisme, ils s'en cachent même pas. La société occidentale, on s'est battu contre le communisme pendant des années. Parce que le communisme a fait des millions et des millions et des millions de morts. Il n'y a aucun pays communiste qui a connu du succès jamais. Ça a tout le temps été des poubelles, des pays où il y avait une immense tyrannie, pas de liberté d'expression, taux de suicide élevé, etc., etc. Cuba, qui est peut-être le moins pire, est quand même assez dégueulasse, sérieusement. Fidel Castro, c'est sûr que beaucoup de gens essaient de le faire passer, lui, puis Che Guevara comme des héros, mais il y a des atrocités que Castro a fait qui sont inacceptables. Notamment envers les homosexuels, puis tout ça. Et si tu regardes maintenant le Québécois moyen, il n'est pas plus sexiste aujourd'hui qu'il y a 10-20 ans. Il est probablement moins. Le Québécois moyen est probablement moins raciste aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Le Québécois moyen est pas moins démocrate qu'avant, tient à sa liberté, trouve important la liberté d'expression. Mais comment ça se fait à ce moment-là que des groupes citoyens comme exemple La Meute, qui regroupe des gens normaux, là, si tu regardes une photo de La Meute, c'est des mononcles puis des matantes, et eux, ce qu'ils veulent, c'est la laïcité qu'on a tout le temps eue. Sauf que là, les gouvernements commencent à voter des lois qui sont à l'encontre des principes de laïcité. Ils veulent la liberté d'expression alors que les gouvernements votent des lois à l'encontre de la liberté d'expression. Fait que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est arrêter de faire des lois contre nos droits, arrêter de nous enlever des droits. Les citoyens, c'est pas radicalisé. Dans les années 80-90, il y avait bien plus de liberté d'expression qu'aujourd'hui. C'était pas... les journaux racontaient... Tu sais, je veux dire, t'avais des journalistes qui faisaient des enquêtes, qui amenaient de l'information. Il y a toujours eu des biais, mais jamais comme aujourd'hui. Puis je vous donne un exemple. Ça, c'est... Je pense que c'est le Wall Street Journal. Je sais pas si c'était d'aujourd'hui, mais... C'est un journal qui est distribué dans deux secteurs différents. Il y en a un, on voit, c'est écrit à gauche, « Trump softens his tone ». C'est-à-dire, Donald Trump adoucit son ton. Et à droite, on voit le même journal, le même jour, le même article, et le titre, c'est « Trump talks tough on Wall ». Donc, Donald Trump est plus « tough » sur le mur. Fait qu'à gauche, il est plus doux, puis à droite, il est plus dur. Et là, tu te dis « OK, là ». C'est n'importe quoi, là, les médias. Puis vous savez, là, les fake news. D'ailleurs, je vends mon T-shirt. Je vous recommande fortement de l'acheter et de le porter surtout. On ne peut plus se fier aux médias de masse. Si tu regardes, par exemple, les émeutes qu'il y a eu à Québec causées par les antifas, frappent les citoyens ordinaires, dont des vieillards. Des enfants sont aspergés de peinture, des mères de famille sont n'importe quoi, là, met le feu dans les poubelles, kick le moto du policier, lance des bombes lacrymogènes, lance du mobilier dans la rue. T'sais, des malades mentales, là. T'sais, ça, c'est un groupe terroriste domestique. Et au lendemain de ça, alors que d'un côté, tu avais un groupe terroriste domestique, et de l'autre côté, tu avais un groupe de citoyens qui a marché dans le silence. Couillard a dit, dans ce conflit-là, ou dans cet affrontement entre les gens qui prônent subtilement ou non le racisme et la xénophobie, là, il parle de La Meute, et ceux qui s'y opposent, il parle des antifas, il faut choisir son camp. J'ai choisi le mien, c'est celui de m'opposer au racisme et à la xénophobie. Donc, ton premier ministre, en 2017, après avoir vu un groupe de terroristes domestiques décoalisser la ville de Québec et terroriser la population, dit « Moi, je suis du bord des terroristes. » Le premier ministre du Québec. Pensez, ceux qui ont mon âge, à René Lévesque, comment il aurait réagi. Pensez à Jacques Parizeau, comment il aurait réagi. Pensez à Robert Bourassa, il n'aurait pas réagi bien, mais il n'aurait sûrement pas pris le bord des antifas. Et les lois qui sont votées sans arrêt... depuis quelques années, surtout au Canada, ce sont des lois débiles mentales. Tu sais, la motion M103, les gens disent « Ah, c'est juste une motion, c'est juste pour... » On veut pas que les gens aient un discours haineux envers les musulmans. Sauf que quand tu regardes dans la motion, ça dit que il faut punir toute forme d'islamophobie. Et il y a une des formes d'islamophobie qui dit que si tu n'es pas un musulman, tu es islamophobe. C'est aussi simple que ça. Les femmes en Iran, lorsqu'on les a obligées à se voiler, puis il y avait un groupe de résistance de femmes qui ont marché dans les rues pour dire « Non, on ne se voilera pas », ils ont été traités d'islamophobes. Donc, l'islamophobie sous toutes ses formes, ça équivaut à une loi anti-blasphème de la charia. Puis les gens ont dit « Ben non, regardez là, c'est... » c'est juste pour comme rassurer les musulmans, etc. Sauf que un blogueur qui s'appelle Kevin Johnston a été accusé de crime haineux parce que dans un de ses vidéos, il a dit je donne 1000$ à une personne qui va filmer un imam dire qui a un discours haineux. Comme par exemple, tu sais, comme on a eu à Montréal, tu sais, il faut tuer les juifs, etc. Donc, si vous arrivez avec du footage comme ça, je vais vous donner 1000$ puis je vais le publier pour démontrer que, regardez, le discours haineux, là, ça existe, mais ça existe également du côté des musulmans. Il a été accusé. Donc, c'est pas une loi qui est bénigne. En fait, c'est une motion, mais c'est pas une motion qui est bénigne. Si on parle de C16, par exemple, C16, la peur, c'est que avec le délire des justiciers sociaux qui ont pris d'assaut carrément les gouvernements et les médias, la loi C16, c'est que ça inclut dans les groupes à protéger également les LGBT et ceux qui expriment leur genre différemment du genre avec lequel ils sont nés. Comme par exemple, si tu es un homme puis tu penses que tu es une femme puis tu exprimes ton genre en étant une femme, ben on doit te protéger. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que maintenant, les justiciers sociaux, eux autres qui sont obsédés par être oppressés, ils veulent être oppressés. En fait, ils veulent pas être oppressés, ils veulent revendiquer comme s'ils l'étaient. Donc, ils s'inventent toutes sortes de genres, toutes sortes de saveurs. Là, OK, moi, je suis non-binaire, genderqueer, whatever. Et là, ah ben tu vois, je suis une minorité sexuelle, donc je suis oppressé, donc de moi. Et eux autres, ils revendiquent, tu sais, moi, je suis pas un homme ni une femme, alors le pronom que tu vas utiliser pour référer à moi, ce sera pas il ou elle, ça va être oul, mettons. Et si tu refuses d'utiliser le pronom que je t'impose, malgré le fait que je suis en train de délirer et qu'il n'y a aucune preuve scientifique que ce que je te dis est vrai, t'es obligé d'utiliser ça. C'est sûr que c'est pas le monde dans la rue qui vont être sur spot pour ça, mais c'est les professeurs. Puis même, on parle de garderie. Tu sais, l'espèce de folle qu'il y a en Colombie-Britannique, le premier enfant au Canada à ne pas avoir de genre. Je sais pas si vous l'avez vu, cette petite folle-là, là, à une madame avec une barbe. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire, elle, la minute que son enfant rentre à la garderie? Ah, mon enfant, il n'y a pas de genre, donc tu vas référer à lui en utilisant ce pronom-là. Et je peux te dire une affaire, la madame à garderie ou le monsieur, bon, on va dire des madames, surtout des madames à garderie, là, elle a intérêt en hostie à utiliser le bon pronom. Puis elle a intérêt à utiliser le pronom pour s'adresser à cette crise de folle-là aussi. Sinon, elle va porter plainte, puis elle va gagner. Jordan Peterson, qui est un professeur de psychologie à l'Université de Toronto, a quitté sa job parce qu'il était écœuré de se faire écœurer parce qu'il refusait d'utiliser les pronoms qu'on lui imposait. Parce que c'est ça aussi. Tu sais, la liberté d'expression, c'est tu peux pas m'empêcher de dire ce que je veux dire, mais là, c'est une coche de pire, là. C'est qu'il t'oblige à utiliser des mots que tu veux pas utiliser. Parce que c'est un délire total. Sauf que aujourd'hui, la norme, c'est plus qu'il y a deux genres. La norme, c'est qu'il y a un spectre infini de genres supporté par les gouvernements. Et il y a le Bill 89 aussi en Ontario qui dit que si ton enfant veut exprimer un autre genre que celui qui a été attribué à la naissance et que le parent refuse, on va y enlever son enfant. Tu sais, tu dis la population canadienne, québécoise, ce qu'on veut, c'est on veut des politiques familiales pour nous aider avec nos enfants parce qu'on est de plus en plus taxés. À un moment donné, on a besoin de nourrir nos enfants, on veut faire des enfants, mais c'est tellement pesant économiquement qu'il y a une baisse incroyable de natalité, on a besoin de politiques familiales qui encouragent les familles. Et le gouvernement, ce qu'il fait, il fait exactement le contraire. Il fait des lois pour que je puisse arbitrairement t'enlever ton enfant parce que je considère que la théorie du genre, c'est vrai, même si c'est complètement un pur délire. Donc, on est rendu maintenant dans les médias. Et les gouvernements. Le gouvernement, au lieu de s'occuper de la population, puis quand je dis la population, je parle des travailleurs, ceux qui payent des taxes et des impôts, les gens qui sont productifs, ça veut dire les gens qui bâtissent cette société-là, parce que ton hôpital, il est payé par les travailleurs. L'étudiant ne paye pas une scène d'impôts parce qu'il ne travaille pas. Il y
Il y a l'hôpital gratis parce qu'il y a des travailleurs qui travaillent pour. Le BS, il y a le droit au dentiste, à l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour. Les justiciers sociaux qui se pognent le cul, qui font rien, ont droit à l'hôpital, ont droit à l'école, on lui paye l'université, le cégep, l'hôpital, le BS, les prêts-bourses. C'est pas, on n'a pas chié cet argent-là. Il y a des travailleurs qui ont travaillé, qui ont payé des taxes puis des impôts. Et c'est comme ça que la société s'est bâtie. La société s'est bâtie parce qu'on était obsédé par la famille avant. Papa, maman, mariez-vous plus Christ parce que si tu recules il y a 100 ans, l'espérance de vie, c'était quoi? 50 ans? 60 à de best? Dépêche-toi de marier, puis pop des enfants, le curé de la paroisse, il voyait une femme pas enceinte, il capotait. Puis là, tu vas t'acheter une terre, puis tu vas faire des enfants, puis ta-ta-ta-ta. Ça a l'air, c'est rétrograde, mais ça de même que ça marchait dans ce temps-là. Et ça, ça l'a bâti notre système scolaire, ça l'a bâti nos routes, ça a bâti notre réseau hydroélectrique, le réseau universitaire, la recherche et développement. On a bâti, il y a des entreprises qui se sont bâties ici, etc. Donc, on a bâti ensemble avec des valeurs familiales, une des plus belles peut-être sociétés au monde, les plus égalitaires, etc., etc. Et là, maintenant, les gouvernements aujourd'hui font tout pour casser ça. Fuck la famille, fuck l'hétéronormativité, donc être hétérosexuel maintenant, c'est pas ça qui est la norme. On va t'enlever tes enfants pour des raisons arbitraires. Il y a un groupe de terroristes domestiques qui fait de la violence contre n'importe qui. On ne fait rien. On les laisse aller. Et même le premier ministre qui dit « Je suis du bord des Antifa », c'est carrément ce qu'il a dit. Tu as, par exemple, l'immigration illégale, les portes grandes ouvertes. Il y a 20 ans, là, si tu disais, mettons, tu poses la question à un Québécois, est-ce qu'on devrait laisser rentrer n'importe quoi au Canada puis donner du BS? Puis ben non, tu es malade, toi. Il y a 20 ans, les journalistes, là, ils auraient crié leur vie avec ce qui se passe présentement à nos frontières. Qu'il y a genre 500 immigrants illégaux qui rentrent par jour. Ça aurait crié, là. Mais maintenant, tu es un raciste juste parce que tu veux que le gouvernement protège ses frontières, qui est sa job numéro 1. C'est rendu maintenant que le gouvernement du Québec refuse de faire flotter le drapeau des Patriotes à la fête des Patriotes. C'est une question de temps avant que le drapeau québécois soit perçu comme un drapeau raciste. 3 jours après les manifestations, en fait l'émeute à Québec causée par le groupe terroriste Antifa, le Devoir faisait un article contre la meute qui a eu un comportement irréprochable en disant qu'ils n'ont pas de cœur parce que quand ils parlent des immigrants, ils utilisent des mots techniques. Des mots légaux comme immigrants illégaux. Oui. Ben, aux États-Unis, eux autres, ils utilisent le mot illegal alien. C'est même pas un humain, avec dans leur langage, eux autres. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on est dans un système parlementaire où, théoriquement, on devrait se parler, la population, puis venir à un consensus. C'est ça, la démocratie. C'est pour ça que la liberté d'expression est importante. C'est pour ça qu'on a un système parlementaire. Parce qu'on doit se parler puis venir à un consensus, mais je dois utiliser les bons termes, le terme technique, si je veux qu'on soit d'accord. Parce que si je dis immigrant illégal, parce que techniquement, ce sont des immigrants illégaux qu'on a présentement, ben là, c'est ça, c'est on est-tu pour ou contre? Bon, on est contre, c'est illégal, on ne peut pas être pour ça. Tu sais, il faut fermer la frontière. C'est pas à cause qu'aux États-Unis, tu as un président qui met ses culottes puis qui fait ce qu'on doit faire, que nous autres, il faut qu'on soit 5 fois plus tapette là, qu'on l'était avant, tu sais. Et... Mais si on dit, c'est pas des immigrants illégaux, c'est des réfugiés dans le besoin, ben, c'est pas ça, là. Fait que si tu veux qu'on ait un consensus, il faut que le terme qu'on utilise soit le bon terme, mais aujourd'hui, la vérité, c'est nazi. Fait que, à mesure que les gouvernements se détachent du sol, à mesure que les médias de masse se détachent du sol, se détachent des préoccupations des citoyens, puis commencent à délirer, Là, ils sont rendus dans la stratosphère. Là. Ils n'ont plus de pieds sur la terre. Tout ce qu'ils écrivent, c'est complètement délirant. Tu sais, t'as des actes terroristes dans la ville de Québec, mais on va défendre les Antifa puis on va attaquer la meute. T'sais, tu vois qu'ils sont loin de l'événement. Là. Moi, je l'ai vécu quand j'ai fait ma tournée de conférence plus tôt cet été, que les articles qui étaient chiés sur moi étaient loin de la réalité. Là. Ça n'avait rien à voir ce qui avait été écrit dans les médias. C'était n'importe quoi. Alors, à mesure que les médias et les gouvernements s'éloignent du peuple et s'en vont dans la stratosphère, puis le peuple, lui, il reste à terre. Lui, le peuple, il se réveille le matin, puis il drink, cadran sonne, faut que je fasse le déjeuner à mes enfants, j'aille les porter à l'école, j'aille travailler, faut pas que j'arrive en retard, faut que je paye mes taxes, faut que je paye mes impôts, faut que je fasse l'épicerie, faut que je cherche les enfants, faut que je fasse le souper, faut que j'y couche, faut que je fasse les devoirs, puis le lendemain, ça recommence, puis là, faut pas oublier telle affaire, puis là, c'est la fête à l'autre la semaine prochaine, faut que je jette un cadeau, puis tu sais, t'es dans la vie de tous les jours, là. Hein? Tu vas peut-être perdre ta job. Ah fuck, perdu ma job, faut que je me retrouve un autre job. Puis bah, ma femme a perdu sa job. Shit, les temps vont être durs. Paiement d'hypothèque. Mon char, fuck, il vient de péter, faut que j'aille au garage. Tu sais, c'est le quotidien de tous les Québécois. C'est comme ça qu'on vit, nous autres. On est terre à terre. On n'a pas le temps de philosopher sur il y a combien de genres, là. On n'a pas le temps, là, de délirer sur comment se sent le transgenre à matin. C'est comme, garde, on a un réseau de santé pour s'occuper de toi, là. Mais il y a deux genres. Il n'y a pas 70, il n'y a pas 200. Il y en a deux. On n'a pas le temps de niaiser avec ça. Alors, à mesure que les gouvernements et les médias de masse, qui sont littéralement pris d'assaut par les justiciers sociaux et les féministes radicales, d'ailleurs, il y a, je pense, dans les dernières stats, il y a 7% des femmes qui supportent le féminisme d'aujourd'hui. La ministre de la femme, Lise Thériault, de la condition féminine, ne supporte pas les féministes d'aujourd'hui. Elle s'est faite taper dessus pour ça, mais qu'est-ce que je te dise? Au moins, elle a fait preuve d'honnêteté, parce que tu ne peux pas supporter un féministe qui est carrément anti-homme, qui est pour l'islam radical et l'intersectionnalité. Je ne peux pas supporter ça, c'est un peu délire. Alors là, à mesure que tout le monde s'en va dans la stratosphère, puis ils sont loin de la réalité, ceux qui restent au sol sont radicalisés par le fait même qu'ils restent au sol. Parce que l'idée mainstream maintenant, c'est pas qu'il y a deux genres, c'est qu'il y en a une multitude. L'idée mainstream aujourd'hui, c'est que si tu es contre des gestes illégaux, comme l'immigration illégale, tu es raciste, alors que ça n'a rien à voir. Alors, c'est sûr que les journaux, ils vont dire qu'il y a une montée de l'extrême droite. Il n'y a pas de montée de l'extrême droite. C'est vous autres qui montez dans l'extrême gauche, puis les gens au sol, forcément, se radicalisent en ne faisant rien d'autre qu'être comme d'habitude. Moi, mes préoccupations, il y a 20 ans, c'est les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. C'est juste que là, j'ai des enfants maintenant, tu sais. Avant, c'était fais ta job, paye pas ta job, paye ton loyer, paye ton auto, tu sais. Puis là, maintenant, ben là, t'ajoutes les enfants à ça. Mais je suis contre le racisme. Le racisme, c'est inacceptable. Puis je pensais ça il y a 20 ans, puis je pense ça aujourd'hui. L'égalité homme-femme, c'est important. Il y a 25 ans, c'est encore important pour moi aujourd'hui. Je suis pour les travailleurs. J'étais contre les traités internationaux de commerce il y a 20-25 ans. Je suis encore contre aujourd'hui. Tu sais, puis la vaste majorité des Québécois, ils ont la même réalité aujourd'hui qu'il y a 20-25 ans. C'est tout le temps une bataille entre essayer de réussir économiquement, pas trop se faire manger par l'impôt, qui t'en reste un peu à l'autre bout, puis donner un avenir prospère à nos enfants. Sauf que la recette du succès, c'est-à-dire des politiques familiales qui ont bâti le Québec, le réseau hydroélectrique, les routes, les écoles, etc., maintenant, avec le nouveau modèle, on n'est même plus capable de réparer ce qu'on a construit avant. Ça donne-tu une idée à quel point que le modèle, c'est de la calisse de marde? Dans le temps, on a construit les ponts, à ce temps, on les regarde tomber. Dans le temps, on a construit des écoles, maintenant, on les regarde tomber. T'sais, on a construit des routes, maintenant on tombe dans les nids de poules. On n'a même pas d'argent pour réparer ce que nos parents et nos grands-parents ont bâti. Et au lieu de que les gouvernements disent, bon, OK, on fait quoi là, avec les routes, là? OK, on fait quoi là, avec tel problème, là, les Québécois payent de plus en plus d'impôts. Avant, là, la dette, payer la dette, c'était un enjeu qui revenait à chaque élection. Payer la dette. La dette est trop élevée. Il faut payer la dette tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, qui parle de payer la dette? Non, non. On veut continuer de s'endetter pour que vous autres, vous payiez plus de taxes, plus d'impôts pour enrichir nos amis les banquiers. C'est juste ça. Fait qu'à la question, est-ce que les Québécois se radicalise? Non. La réponse, c'est le gouvernement se radicalise et les journaux, les médias de masse se radicalisent. Un, ils se peinturent dans un coin toute la gang à l'extrême gauche. Tu regardes, par exemple, j'ai jasé en fin de semaine avec Sylvain Brouillette, qui est porte-parole de la Meute, puis il me dit, écoute, j'ai eu une bonne discussion avec Lise Ravary. J'ai parlé 3 heures de temps au téléphone. C'est une bonne madame. Puis, tu sais quoi? Elle est du bord de la Meute. Elle me l'a dit qu'elle était de notre bord, puis qu'elle comprenait nos enjeux, puis c'est ça. Puis, elle était bien encouragée de ça. Puis, le lundi, elle a fait un article pour bâcher la Meute. OK? C'est un délire total. Les médias de masse sont contre le peuple. Je parle à des gens de ces enjeux-là, puis ils me disent, tu sais, je regarde tes vidéos, je trouve ça vraiment cool, je m'intéresse à la politique avant, ça m'intéressait pas. Là, ça m'intéresse plus. Mais une affaire, par exemple, c'est que j'ai peur de donner mes opinions à mon entourage, à ma famille, à mes amis, à mes collègues de travail. J'ai peur. J'ai peur de me faire juger. Tu sais, je suis contre l'immigration illégale, mais j'ai peur de le dire parce que j'ai peur de me faire traiter d'extrême droite ou de raciste ou de nazi. Hey, imaginez, le traiter les gens de nazis. Pensez-y 2 minutes, là. Tu sais, le régime d'Adolf Hitler qui a exterminé genre 6 millions de juifs, des camps de concentration, de la torture, des chambres à gaz. Une personne qui est contre l'immigration illégale, aujourd'hui, se fait comparer à ce régime-là. Et le délire, c'est le délire total, là. C'est les gens qui disent ça sont dans la stratosphère, ils n'ont plus aucun contact avec la réalité. Et les médias de masse, ils n'ont plus aucun contact avec la réalité. Puis, c'est parce qu'ils n'en veulent pas de contact avec la réalité. C'est pour mieux vous manipuler. On vous fait accepter des délires, mesdames et messieurs. La théorie du genre, si je pose la question puis je l'explique aux Québécois, 95% au moins vont dire que c'est de la calisse de marde. Puis ils vont être en hostie contre la loi C-16. Parce que qui des médias a expliqué c'était quoi C-16? C'est vraiment honnêtement personne. La motion M-103. Qui dans la population sait c'est quoi la motion M-103? Très peu de gens. Qui l'a expliqué convenablement dans les médias? Personne. Il chie sur Trump. Qui dans les médias a expliqué c'était quoi le programme de Trump? Personne, moi. Qui a expliqué le programme de Marine Le Pen? Personne, sauf moi. Point par point, voici c'est quoi le programme. Objectivement. Et on va dire que Marine Le Pen est d'extrême droite alors que si tu regardes le programme du Front National, c'est plus proche de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Vous faites mentir à tous les jours. Les politiciens ne gouvernent plus pour vous depuis un bout. Et chaque loi qui sort maintenant, c'est pour faire avancer un agenda néolibéral, globaliste, altermondialiste, name it. Et si vous osez dénoncer ça, vous allez avoir l'étiquette d'extrême droite, de radical, et ils ont fondé un beau centre, mesdames et messieurs, contre la radicalisation menant à la violence. Et ces gens-là, ils ont leur target sur la Meute, qui n'a jamais fait de gestes de violence. Mais on oublie complètement les antifas, on oublie complètement l'islam radical, c'est pas ça qu'on regarde. Alors que si vous regardez, il y en a une pelletée de Québécois qui ont été radicalisés, qui sont allés faire le djihad en Syrie, par exemple. Ça, c'est pas grave, ça. C'est la Meute, le problème. Le centre contre la radicalisation menant à la violence, le focus est sur un groupe pacifique. Les nazis d'aujourd'hui, ce sont les démocrates. Et d'ailleurs, la semaine passée, on a fait un live avec Gauche-Droitistan. Je reprenais la barre comme animateur de cette émission-là, puis il y avait Ève-Marie Collin. Annie-Ève Collin, excusez-moi. Excuse-moi, Annie-Ève. Annie-Ève Collin, qui est philosophe, et qui a dit, puis là, je paraphrase parce qu'elle le dit beaucoup mieux que moi, je vais le dire, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les droits de l'homme pour éviter que d'autres nazis se pointent le nez. Et les droits de l'homme, ça inclut la liberté de circuler, la liberté de se rassembler, la liberté d'expression, etc., etc. Ça, ce sont des droits fondamentaux pour être sûr qu'il n'y ait plus de nazis puis plus de fascistes qui puissent émerger. Dans le sens où, comme tu as une libre circulation des idées, puis on n'empêche personne de parler, mais si un nazi qui veut parler en public, il a le droit de le faire, mais il va se faire ridiculiser jusqu'au cimetière. Mais ce nazi-là ne pourra jamais imposer sa vision des choses aux autres parce que tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a le droit de se rassembler. Donc finalement, on va neutraliser n'importe quel groupe de fascistes ou de nazis avec la liberté d'expression. Si tout le monde peut s'exprimer en public, tout le monde a des chances égales. Pas genre, ah oh ben oui, stupide, toi, t'as ta tribune, personne t'empêche de parler. Ouais, mais c'est parce qu'à Radio-Canada, vous avez fait un segment sur moi pour me chier dessus pendant 13 minutes. Personne, vous ne m'avez pas invité pour avoir ma version des choses. Fait que toi, t'as parlé à plusieurs centaines de milliers de personnes, puis moi, je parle à 123 personnes présentement, puis peut-être 2-3 000 avec les reprises. C'est pas ça, la liberté d'expression, là. Fait que dans le fond, les antifas, présentement, lorsqu'ils attaquent les gens, physiquement, ils frappent un monsieur parce qu'il y a un drapeau des patriotes. Un, il atteint la sécurité physique de cette personne-là, qui est un droit fondamental. Il enfreint son droit de s'exprimer. Il enfreint son droit de se réunir avec d'autres personnes. Donc, ses droits fondamentaux sont violés. Et ces droits fondamentaux-là sont là justement pour plus qu'il y ait de fascistes et de nazis. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les antifas sont des fascistes. En fait, on devrait dire les nazifas. Ce sont des nazifas. Des nazis fascistes qui empêchent les droits fondamentaux des autres citoyens qui ne sont pas d'accord avec eux, puis même ceux, des fois, qui sont d'accord avec eux. Et il y a une pétition aux États-Unis, présentement, je pense, on est rendu à 325 000 signatures. Pour déclarer les antifas comme un groupe terroriste domestique. Le New Jersey le fait. Il y a Guy Boulian qui a parti une pétition aussi officielle sur change.org, une pétition québécoise. Je n'ai pas le lien malheureusement ici, mais pour déclarer les antifas comme un groupe terroriste domestique, parce que c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, en 2017, un groupe radical comme les antifas, on va dire que ce sont des contre-manifestants, un groupe de gauche, des antifascistes, des antiracistes. Mais non, ce sont un groupe terroriste domestique violent. La Meute, qui est un groupe citoyen qui a marché dans la paix, qui revendique des droits qu'ils ont déjà, mais qu'on perd parce que les politiciens ne veulent pas qu'on ait accès à ces droits-là. Les politiciens qui essaient d'éloigner le plus possible les citoyens du mécanisme démocratique. Eux autres, c'est eux autres les racistes, c'est eux autres les extrémistes. Alors, c'est pas le Québec qui se radicalise, c'est le gouvernement puis les médias de masse qui se radicalisent. Et ils sont dangereux. Alors, c'est pas mal tout pour moi ce soir. T'sais, je vais fermer l'enregistrement ici. Ce qui va se retrouver sur mon YouTube, c'est ça. Et maintenant, là, il est quelle heure? 20h52. Je vais prendre les questions dans le chat jusqu'à 9h. Après ça, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Donc, je prends vos questions dans le chat. Si vous avez posé des questions avant, oubliez ça. Je ne remonte pas le chat. Je suis tout seul. Je n'ai pas un producteur avec moi. En passant, merci à ceux qui ont acheté mon T-shirt. J'ai repassé une autre commande récemment parce qu'il me manquait des grandeurs et tout ça. Donc, ce chandail-là est pas un grand succès. Là. En tout cas, ceux qui l'ont, ils sont contents. Puis c'est cool que... Tu sais, j'aime ça. J'ai pas encore vu personne avec ce t-shirt-là dans la rue ou whatever, mais j'ai hâte que ça arrive. Ça me fait chaud au cœur. Il y a Max qui dit « Fais-nous plus de vidéos, tu nous manques. » Je n'ai fait beaucoup la semaine passée. Et honnêtement, je manque pas à grand monde, mon cher Max. Je suis encore très underground et très marginal. Il y a Entre ciel et terre qui dit « Comme ils l'ont fait pour la Libye et la Syrie, les terroristes étaient des gens qui voulaient seulement la démocratie. » Non, je pense pas. Je pense pas parce que les terroristes sont des islamistes radicaux et les islamistes radicaux le disent que l'islam est pas compatible avec la démocratie. Et ça, t'as Hamza Chaoui, un imam au Québec qui a dit ça. Donc, c'est pas vrai. Vas-tu faire des autocollants? Faudrait bien. J'en ai parlé de ça, des autocollants. Je sais pas. Je sais pas, y a-t-il vraiment du monde qui vont coller ça quelque part? Aucune idée. Ouais, Yagi Singh s'est fait ramasser aujourd'hui. Mais je pense que c'est de la grosse bullshit. Moi, sérieusement, je pense que Yagi Singh est sur le payroll de la GRC. Alors, c'est ça. Ben, ils n'avaient pas l'air en feu, mesdames et messieurs, ce soir. Alors, je vais mettre fin à cette émission. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci de me suivre. J'espère que vous avez partagé le lien de cette émission-là. Également, présentement, je suis sur le channel de Gaujouatistan et non pas mon channel parce que j'ai pas le droit de faire de vidéos live pendant 3 mois. Alors, j'utilise ce channel-là. Mais il y a un désir présentement de la gang de Gaujouatistan avec comme leader Jean-François Cloutier de faire revivre cette émission-là. Donc, soyez à l'écoute. C'est la seule émission au Québec où vous allez avoir des vrais débats entre des gens qui n'ont pas toutes la même idée. C'est-à-dire qu'ils ont des débats très polarisés, gauche-droite. Ceux qui suivent Gaujouatistan depuis le début, vous avez assisté à des scènes épiques de chicanes vicieuses et violentes entre, par exemple, Evan Demers et Yann Rochdy. C'est le real deal. Alors, si vous êtes friand de débats politiques et de discussions politiques, Gaujouatistan semble vouloir comme reprendre du collier. Alors, soyez attentifs, suivez mon Facebook. Je vais poster les émissions qu'ils vont faire. Je vais essayer de participer aussi un peu plus souvent à leur émission. Alors, merci tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Et c'est ça. Merci d'acheter mon chandail.